lösch mir die Augen aus. Éteins mes yeux, ich kann dich sehen. Je te verrai encore. Werf mir die Ohren zu. Bouche-moi les oreilles. Ich kann dich hören. Je t'entendrai encore.
Dr. Semmelweis.
He was a young doctor.
Au début, c'est le jeune docteur. Semmelweis devait être très ambitieux, très sérieux, extrêmement intelligent, bien sûr, très empathique aussi, mais très ambitieux. C'est quelqu'un qui a quand même été capable de quitter la Hongrie pour aller travailler dans un hôpital à Vienne. Donc, sérieux, ambitieux et aventureux, ça, c'est le premier Semmelweis. Ensuite, il y a le second Semmelweis, le médecin déjà installé, qui travaille depuis plusieurs années comme obstétricien. Je l'imagine grand, fort, plutôt bel homme. C'est une autre image de lui. Mais ce que je trouve fascinant, c'est le dernier Semmelweis. L'homme qui vieillit et qui devient de plus en plus obsessionnel. Son corps vieillit, se détériore à cause de sa mauvaise hygiène de vie. Je l'imagine de plus en plus voûté et grisonnant, perdant l'étincelle qu'il avait dans les yeux, de plus en plus en colère contre le monde, opprimé et battu par la vie.
Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Anne Pérez Franchini.
Il est devenu littéralement fou. Il y a une chose que je trouve particulièrement triste et tragique. Semmelweis a été battu. On l'a frappé dans l'asile où il était parce qu'il se débattait. Il n'est pas mort sous les coups, mais à cause d'une infection grave. Voilà comment il est mort. De cette infection généralisée qu'il essayait lui-même de combattre. De cette infection qui avait tué tant de femmes. La mort de Semmelweis et la mort des femmes sont inextricablement liées. C'est l'interprétation que je préfère, que sa mort soit inséparable de tout cela.
Cinquième partie, la vérité.
Il faut rester factuel, parce que là, on va entrer dans la nébuleuse, tout le monde va raconter tout un tas de choses, personne ne prouve grande chose. Donc, il faut rester factuel.
Miklos de Samarosi.
Sa femme, en 1905, cinq années avant sa mort, a fait une déclaration où elle dit « L'esprit de mon mari, la tête de mon mari, commence à s'assombrir à partir des années 60 ». Et c'est vrai, parce qu'il y a des photos. À partir de l'année 58 jusqu'à sa mort, il y a une photo tous les ans. Et on peut effectivement voir une dégradation physique de son visage, un vieillissement accéléré.
Semmelweis était quelqu'un de très actif.
Ted Obenschein.
Vous ne pouvez pas être paresseux quand vous travaillez dans un service d'obstétrique. Vous faites vos rondes très tôt le matin. La plupart du temps, vous êtes de garde le soir. Et pour couronner le tout, Semmelweis savait pertinemment que les épidémies flambaient à nouveau un peu partout. Ça le rendait furieux, parce que cela aurait pu être évité. Il suffisait d'être vigilant et de faire consciencieusement son travail. Semmelweis était constamment en colère. Il se disputait avec les infirmières, avec les autres membres du staff, même avec l'administrateur de l'hôpital. Il avait beau expliquer les choses, rien n'y faisait. Le personnel soignant continuait de réutiliser les mêmes draps infestés et malodorants. Jusqu'au jour où Semmelweis, excédé, prend une pile de draps souillés et va la balancer sur le bureau de l'administrateur.
and threw him on the on his desk. So he made a very strong enemy out of the hospital.
Il se fait un nouvel ennemi, ce qui à long terme n'arrangera pas ses affaires.
Il n'en peut plus, il sait qu'il a la vérité. Pas au sens, il n'est pas, le bon Dieu. Sur cet aspect-là, pratique,
Yves Bain,
il sait qu'il a la vérité. Et ça marche, on voit les chiffres, ça marche. Donc il sait qu'il n'y a que ça à faire. Et on le rabroue et on se moque et on n'applique pas les mêmes. Même la décision du Conseil de santé à Budapest, quand il va visiter les services d'obstétrique hongrois, il s'aperçoit que les directives ne sont pas appliquées, alors qu'elles ont été formulées par le Conseil scientifique. Donc il n'en peut plus.
C'est lui qui a quand même découvert le mécanisme d'infection et le pourquoi de l'infection. C'est la cause quand même, l'étiologie. Il a découvert l'étiologie de la maladie. Et donc,
David Labreur.
Appliquer les mesures qui s'imposent, le fait de se désinfecter les mains, de nettoyer systématiquement les instruments médicaux. Donc on peut le considérer comme l'un des pères de la sepsie, c'est sûr. Et bien, la plupart des médecins étaient totalement réticents. Totalement réticents.
Le crime doit cesser. Il n'y a pas d'autre moyen. Es gibt keine andere Mittel. Je dois leur dire, je dois leur écrire. Vous êtes des assassins. Vous êtes des meurdeurs. Je vais attaquer sans pitié mes adversaires.
Semmelweis est allé très très loin là-dedans parce que il a dit au médecin
Johann Chapoutot,
votre vocation, votre honneur, votre vie, c'est de soigner et de sauver. Or là, vous tuez. Alors vous tuez pas volontairement, mais vous tuez par ignorance. Et moi, je vous montre, statistiques à l'appui et protocoles à l'appui, que vous pouvez soigner sans tuer. Mais ça, c'était insupportable pour les médecins de l'époque. Et de fait, certains n'en ont pas démordu, ce qui a rendu Semmelweis fou. Certains n'en ont pas démordu et ont continué, malgré ce qu'il avait écrit, malgré ses résultats, malgré ce qu'il avait enseigné, se laver les mains après avoir disséqué un cadavre avant de faire une inspection corporelle. Eh bien ça, c'était de la perte de temps. Et puis c'était indigne de dire que c'était le médecin qui apportait la mort.
I only ask that they wash their hands after they work with the cadavers.
Semmelweis, en 1861, fait paraître le seul ouvrage qu'il va écrire sur sa découverte, c'est l'étiologie de la fièvre puerpérale, dans lequel déjà, non seulement il y a sa découverte, mais il va être extrêmement critique déjà envers les médecins de son temps et vers ceux qui n'ont pas accepté sa découverte à l'époque. Et il va écrire une série de lettres ouvertes à ses collègues, extrêmement maladroites, dans lesquelles il les invective directement, il nomme, je crois qu'il y a assassin ou meurtrier dans ces lettres-là. Il y a quand même quelque chose d'assez tacite dans la communauté médicale, il y a la confrérie, on ne s'invective pas, on ne traite pas les autres d'assassins. Ça, c'est quelque chose que Semmelweis a complètement négligé. Et le problème de ces lettres, c'est que c'était l'ultime faux pas à ne pas commettre et qui va sans doute après le précipiter dans l'aigreur et dans son obsession d'incompréhension et de persécution.
Serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mais j'ai gardé le silence.
Semmelweis écrit
Andreas Bickfalvi,
première lettre très virulente au professeur Späth de Vienne. Les femmes meurent et vous participez à ce massacre, Herr Professor. Le crime doit cesser. Toute personne qui ose diffuser des informations erronées et fatale sur la fièvre puerpérale, me trouvera sur son chemin. Il n'y a pas d'autre moyen, à mes yeux, pour faire cesser cette hécatombe.
Docteur Semmelweis. Docteur Semmelweis.
désespoir. Je ressentis un désespoir de sa part. Visiblement, Semmelweis n'en peut plus. N'en peut plus. Et c'est ça qui, en fait, a conduit au fait que il arrivait à dire « Vous êtes un assassin. En 49, vous avez tué 800 femmes. En 47, vous avez tué 650 femmes. Nous sommes en 62, 63. » Et donc là, les lettres sont violentes. On envoie ça partout en Europe, des chefs de maternité, en Hongrie, à Vienne, à Berlin. Enfin, il envoie ça un peu à tout le monde. Évidemment, c'était horrible à dire, mais c'était la vérité.
Semmelweis s'attaque aussi très violemment à une autre sommité, le Hofrat, docteur, professeur Scanzoni de Würzburg. Si vous continuez à Hofrat à enseigner à vos élèves que la fièvre puerpérale est d'origine épidémique, je vous dénoncerai devant Dieu et devant les hommes comme un meurtrier, un meurtre. Herr Hofrat, vous êtes le Néron de la médecine. Der Néron der Medizin.
Scanzoni, Tibo, Rakiön, hát ebből elég volt. Leleplezem ezeket a gyilkosokat, könyvet írok a gyermekágyi lázba.
Amelyeket nagyon hallgatnak.
Áttöröm ezt a szellemi kapát, János.
Les lettres ouvertes de Semmelweis, et c'est ça qui a d'ailleurs fasciné Céline, qui a même été jusqu'à
Clara Royer
luthériser notre pauvre Semmelweis, hein, en prétendant qu'il avait placardé ses lettres ouvertes sur les murs. C'est pas du tout vrai. Donc ces lettres ouvertes qui s'en prenaient ouvertement aux sommités du monde médical autrichien, allemand, anglais aussi, hein. Participe justement du caractère un peu héroïque, hein, de Semmelweis, parce que il n'y allait pas par quatre chemins, il citait les gens par leur nom. C'est pour ça que dans la construction de Semmelweis, il y a aussi cette idée que c'est le sauveur des mères, hein, parce que de fait, oui, c'était courageux, et puis ça révèle la passion du personnage, hein, qui est de fait. Quelqu'un qui appelle un chat un chat.
Quand vous lisez les échanges qu'ont eu Pasteur et Koch en Allemagne,
Jean-Marc,
ils sont d'une violence absolument incroyable. C'est pas avec une épée non mouchetée, mais avec des mots assez acerbes qu'ils s'adressent les uns aux autres. Je pense que Semmelweis, par définition, est absolument convaincu de sa démonstration. Et lui, qui sait qu'il a raison, va finir par employer un vocabulaire et des apostrophes extrêmement violentes, parce qu'en fait, effectivement, derrière, c'est des vies de femmes, et des vies de couples et des vies de foyers qui sont totalement anéanties par le fait que ses collègues ne prennent pas au sérieux sa démonstration et ses propos. Je pense que c'est le cri d'un désespéré, et on peut le comprendre.
Le crime doit cesser. Das Morden muss aufhören. Die Frauen sterben, die Kinder sterben, les femmes meurent et les enfants meurent. Niemand, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, wird mich tadeln. Tout homme de cœur ne me blâmera pas d'agir comme je le fais.
C'est un style presque biblique, plein de rage, de fureur, mais aussi plein de grossièreté. C'est très dramatique.
Tivada Ruttel.
On entend le drame, on entend la lutte quand on lit ces mots. C'est Shakespeare qui aurait pu écrire une chose pareille. Ce n'est pas le langage d'un scientifique. Que voulez-vous que Scanzoni se dise quand il découvre dans l'étiologie qu'il est un meurtrier, le Néron de la médecine ? Semmelweis avait sûrement raison d'un point de vue moral, mais écrire de cette manière n'est certainement pas la meilleure méthode pour convaincre.
En tout cas, c'est un objet curieux, parce que ça tient du pamphlet, en ce sens que c'est argumenté de manière polémique, mais ce sont de mauvais pamphlets. Parce que de fait, il se répète beaucoup, il sort l'artillerie lourde, il y va au canon. au lieu de manier une plume voltairienne, ce qui aurait été plus efficace. Alors, je suis pas psychiatre, mais là, il est en train de basculer dans une forme de, peut-être de psychose maniaco-dépressive. La violence de son propos montre que son jugement est un peu altéré. Il souffre trop. Et c'est là que ça déraille, si vous voulez. C'est là que le psychologique, le personnel, vient percuter le scientifique et aboutit à un échec. Il passe pour un dingue. Il passe pour un dingue.
What exactly is a miasma?
It is a noxious emanation.
Influences not of this world.
Oh ben, il est traite d'assassin quand même. Elles sont à l'image de son désarroi de l'époque. Donc il a des réactions là, de plus que bipolaire. À mon avis, là, c'est carrément parano-conflictuel. Il se condamne lui-même. C'est-à-dire, c'est trop excessif. Tout ce qui est excessif est contre-productif. Non, je crois qu'il s'est perdu, là. Céline, dans ses écrits littéraires, il fait ce qu'il veut. Mais là, ça ne peut pas marcher. C'est presque un passage à l'acte.
Je peux l'interpréter de deux manières, ce geste. Lui était très, très énervé d'avoir autant de résistance par rapport à des évidences qu'il a montrées. Parce qu'il s'est fié finalement uniquement à la raison et à la science et qu'il a vu un establishment entièrement braqué. Et donc, il a évidemment, à ce moment-là, pris cela comme une attaque, non seulement contre lui, mais comme une attaque contre la raison. Et surtout une attaque contre les femmes et les multiples femmes qui mouraient par la fièvre puerpérale. Évidemment, il y a aussi une autre interprétation qui est une interprétation psychologique, psychiatrique, que finalement il se sentait persécuté, il était dans un état pré-psychotique et que cet état finalement pré-psychotique avec tous le stress qu'il avait autour entraînait cette réaction extrêmement violente. Je ne peux pas trancher entre ces deux explications. Peut-être il était fragile sur le plan émotionnel. C'est peut-être vrai, mais il y avait des causes quand même externes qui ont fait que une réaction de ce type-là est survenue.
What has happened here? You are killers.
Dr. Semmelweis, you don't know when to stop, do you?
Your teachings, Herr Klein, are based on the dead bodies of lying young women slaughtered through ignorance. I will put an end to this slaughter.
Dr.
Semmelweis.
Dr. Semmelweis. Je suis un assassin.
Encore une fois, Semmelweis ne récolte que de l'indifférence. Ces lettres ouvertes sont totalement ignorées, ce qui le rend foudrage. C'est à peu près à ce moment-là que les gens commencent à noter des changements notables dans son comportement. Ce qui n'empêche pas Semmelweis d'organiser une campagne de vaccination contre le choléra, je crois. Ni d'écrire des articles sur le kyste ovarien et sur quantité d'autres questions gynécologiques. Ce type était partout. Il avait toujours une dizaine de fers au feu.
Ça, ce sont des textes extrêmement intéressants. Je les ai lus aussi. C'est passionnant la façon dont il décrit l'ovariectomie, la première fois que c'était pratiqué chez une femme, donc l'ablation des ovaires, probablement en cancer. Moi, là, je trouve qu'on retrouve vraiment un chirurgien qui décrit comme il savait faire ses observations d'une manière extrêmement remarquable. Je vais vous donner un exemple. Une bonne trentaine de pages sur les règles. Alors là, les menstruations et les règles n'avaient visiblement pas trop de secrets pour lui. C'est franchement époustouflant. Moi, je n'ai jamais vu, pouvant parler de cette chose, de cette intimité féminine, avec cette capacité d'observation remarquable. Il aborde par exemple le chapitre où il dit que Arrêtez de croire, il dit ça aux hommes, que avoir des rapports sexuels pendant les règles, ça va soulager la douleur de votre femme. Lâchez-les, laissez-les tranquilles. Il dit des choses comme ça. Et en tout cas, sa façon, la tendresse avec laquelle il parle des femmes en douleur, une douleur que les hommes n'ont jamais reconnue, qu'ils ont toujours maltraitée, et je trouve que c'est extraordinaire. Et c'est en 63, c'est l'avant-dernier ouvrage où enfin il parle, il publie, il écrit, c'est son cœur qui parle, il est débarrassé de ce combat qui l'a ruiné et qui l'a emmené à la fin.
Those women,
Raël Oustique.
They were at times demonic and terrifying, and other times
ces femmes,
sweet and beautiful and angelic.
Parfois elles sont démoniaques, terrifiantes.
Just
parfois like elles sont douces, angéliques. Parfois elles sont irréelles, fantomatiques.
The bell rings, another woman has died.
La cloche sonne, une autre femme est morte.
The dirty sheet, the dirty hands.
Des draps sales.
Lay their hands.
Des mains sales.
On the His hands coming through the wall,
des mains se posent sur Semmelweis. Elles sortent du mur comme si elles essayaient de l'attraper, de l'attaquer. Elles traversent le mur. Elles franchissent la barrière. La barrière qui sépare le monde des vivants et celui des morts, peut-être. Les limites de l'au-delà. Ce sont peut-être des fantômes qui veulent l'attraper. Le fantôme de ces femmes mortes qui cherchent à l'attirer.
Wie mit einer Hand halt mir das Herz zu und mein Hirn wird schlagen und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werd ich dich auf meinem Blute tragen.
Il y avait deux médecins de famille, le docteur Bokoyanos et le docteur Balochoyanos, deux professeurs d'université à Budapest. Et les deux étaient un petit peu les amis de famille et aussi le médecin de famille de la famille de Semmelweis et de lui-même. De ces deux médecins-là, on a reçu des informations. Voilà ce qui a été dit. Clairement, son esprit s'assombrissait. Son humeur devenait de plus en plus grave. Il devenait de plus en plus morose, incalculable. Des manifestations de violence injustifiées, des gestes inconsidérés. Il lui arrivait de se déshabiller brutalement, de se mettre à nu. Et ils disent aussi qu'il avait une hyperactivité sexuelle. Il y avait un dérangement de ce côté-là aussi.
Started making rounds at the hospital at odd times.
Semmelweis se met à faire des rondes dans le service à des heures indues et sans raison valable. On finit par l'accuser de chercher à tripoter les femmes. Vrai ou pas, on l'accuse de vouloir passer une main sous leur jupe. Ce qui est totalement surprenant de la part de Semmelweis. Mais qu'il est beaucoup moins de la part de quelqu'un qui est atteint de troubles bipolaires.
Nous sommes là où nous arrivons en 65. Et, sa dernière publication remonte en 64. Donc, visiblement, ces 8 derniers mois, 10 derniers mois, c'était la descente.
Rengeteg munka, folytonos hadakozás. A sorozatos lelki inzultusok.
What happened in July of 1865? First of all,
que s'est-il passé en ce mois de juillet 1865? Semmelweis se rend à un dîner chez des amis proches. On commence à parler de fièvre puerpérale et il n'est pas d'accord avec ce qui est dit. Il entre alors dans une rage folle, complètement disproportionnée. Sa femme est très choquée par son comportement. L'incident met fin à la soirée et on les reconduit chez eux en calèche. C'est sans doute la première fois qu'elle se dit que son mari est vraiment en train de perdre la tête.
It was within nothing, little more than say a week of that time.
Moins d'une semaine plus tard, Semmelweis participe à une réunion à l'université de Pest. Il doit y faire une courte intervention pour réclamer une augmentation de salaire du personnel. Semmelweis monte sur l'estrade, fouille dans ses poches, en sort un bout de papier et commence à lire. C'est le serment des sages-femmes, ce qui est absolument en dehors du sujet. Janos Balacha finit par aller le chercher sur l'estrade et le rassoit à sa place. Aidé de deux autres médecins, Janos Wagner et Janos Bokai, il ramène Semmelweis chez lui et le met sous sédatif. Ils lui font également une phlébotomie, c'est-à-dire qu'ils le saignent, une méthode archaïque souvent pire que la maladie. Une fois Semmelweis sédaté, ils l'examinent et on conclut qu'il est devenu fou. C'est probablement à ce moment-là que débute la conspiration.
À la demande de sa femme, Mario, Bokai et Balacha, les deux médecins hongrois, contactent von Hebra et décident d'un internement.
And he walked unsuspectingly into
Semmelweis tombe dans le piège que lui tendent des gens qu'il connaît depuis longtemps. C'est absolument tragique. Ils partent pour Vienne en prétextant l'emmener faire une cure thermale. Ils prennent un train de nuit et retrouvent Ferdinand Hébra le lendemain matin à la gare de Vienne. Hébra propose à Semmelweis,
«
Tu sais, il y a un nouvel établissement psychiatrique que j'aimerais bien te faire visiter. » Semmelweis fait bien sûr entièrement confiance à Hébra. C'est lui qui a accouché ses propres enfants, et ils sont amis depuis 20 ans. Hébra et Semmelweis montent dans un fiacre qui les conduit à l'asile psychiatrique Döbling, en Basse-Autriche. C'est un établissement qui accueille 700 patients, tous atteints de pathologies mentales plus lourdes les unes que les autres. En réalité, c'était un véritable mouroir.
Les soins sont dérisoires. Il n'y a pas d'infirmiers, mais des gardiens. C'est des blocos, avec des gens qui sont attachés, la plupart du temps, qui sont dépouillés de leur nature humaine. C'est inhumain. On est dans un monde inhumain. Il n'y a rien à en espérer. Et plus on est enfermé, plus on devient malade. Et il y a des violences. Il y a des violences qui sont inévitables. Donc il y a des répressions avec les chambres d'isolement, les camisoles de force, etc. Donc c'est athérapeutique par excellence et c'est inhumain.
And there were some aides.
Des aides-soignants se sont joints à eux pour les accompagner dans la visite de l'asile. Ils traversent ensemble plusieurs salles. Semmelweis est intrigué. Il se tourne vers eux et leur demande pourquoi il y a des barreaux à toutes les fenêtres. Hébra profite qu'il a le dos tourné pour s'en aller discrètement. Semmelweis se rend compte qu'il se passe quelque chose. Il tente de le suivre. Mais pas moins de 6 aides-soignants lui sautent dessus. Il le plaque au sol et lui passe la camisole de force.
On laisse, tout le monde repart. Von Hebra repart en vacances, sa femme retourne à Budapest et lui, il se retrouve tout seul. Il finit par réaliser qu'on l'a enfermé Donc il pique des colères monumentales. Et donc il est battu. Et il est établi maintenant, quasiment, en deux reprises. La deuxième fois, il était presque battu à mort, avec des os brisés, semblerait.
Il va mourir là. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien. Et là, il est mort dans une double souffrance. Il a été battu, il a été maltraité, il a été traité comme un objet, pris pour un fou. Et il est mort d'une septicémie gravissime, dont de grosses souffrances physiques. On l'a laissé mourir, on ne s'est pas occupé de lui. C'est comme ça qu'on pourrait résumer ces derniers jours.
Istenem, segíts, hogy segíthessek az anyákon.
And within a day or two, he developed an infection. And
en l'espace d'un jour ou deux, Semmelweis développe une infection. Des stries rouges lui apparaissent sur tout le bras. Il devient de plus en plus fébrile, la fièvre ne cesse de monter, des furoncles lui recouvrent tout le corps. Il commence à ne plus pouvoir fermer la bouche. Sa langue ressemble à du bois tellement elle est gonflée. Il a de plus en plus de difficultés à respirer et meurt en silence dans la soirée. Cela faisait 12 jours qu'il avait été interné.
The same type of systemic infection that he had been trying to fight against.
La même infection qu'il essayait lui-même de combattre.
The same type of infection that these women had died of.
La même infection qui avait tué tant de femmes.
And that's
voilà
how he came to die.
Comment il est mort.
I think it was the
Semmelweis est mort 12 jours après avoir été interné. Il est autopsié le 13e jour et enterré dès le 14e jour au cimetière Schmelzer de Vienne. On l'a donc enterré 2 jours seulement après sa mort, ce qui n'est pas problématique en soi, mais tout de même étonnamment rapide. On met habituellement 2 à 3 fois plus de temps. Semmelweis est enterré dans la fosse commune d'un ancien cimetière militaire. Hormis son ami Marco, presque personne n'assiste à la cérémonie. Aucun membre de la famille Semmelweis n'est présent.
Il faut dire que les circonstances de la mort de Semmelweis sont pas éclairées. D'abord et avant tout parce qu'on a fait en sorte que ça ne soit pas très clair. Hein. L'autopsie a été faite vraiment avec les pieds. Le rapport d'autopsie est vraiment très déficient, défaillant, pour, sinon mensonger. On l'a enterré à la va-vite. Et c'est une exhumation un siècle plus tard qui a permis de voir que pour quelqu'un qui était mort d'une insuffisance pulmonaire ou cardiaque, il avait quand même des fractures un petit peu partout dans le corps qui indiquaient que les choses s'étaient passées de manière autre et plus violente.
Il reste, donc nous sommes internés 31, le 13 août, il meurt. Il est autopsié, le compte-rendu d'autopsie disparaît pendant 100 ans. C'est 100 ans plus tard que des Hongrois se démènent en Autriche et partout pour récupérer une copie de ce document, pour pouvoir commencer à comprendre qu'est-ce qui s'y passe. Benedek István, donc son biographe, il consacre beaucoup de pages, étudie ça vraiment très en détail. Ce qu'on peut dire, il est sûr qu'il est mort de septicémie par rapport à notre façon de définir les choses d'aujourd'hui, parce qu'on ne parlait pas de septicémie à l'époque.
C'est un peu énigmatique. On dit qu'il s'est contaminé de manière accidentelle lors de la dissection d'un abcès. Je ne sais pas si c'est une personne qui était encore vivante ou un cadavre. Il s'infecte, il n'y porte pas attention immédiatement. Apparemment, c'est le majeur qui est touché, il ne s'en soucie pas immédiatement.
La question qui se pose, d'où vient la septicémie? Les les anciennes écoles disent qu'évidemment, il y avait ce doigt coupé, etc. Ceux qui ne sont pas d'accord disent que s'il avait un doigt coupé, comment imaginer que le médecin de famille n'a pas soigné ça? On ne va pas laisser Semmelweis pendant des mois avec un doigt infecté sans intervenir. L'autre théorie, c'est que quand on l'a battu à mort, ils l'ont brisé des os, ils l'ont blessé. Et si on compte les jours, il compte 13 jours, c'est à peu près le temps que les femmes avaient à vivre une fois qu'ils ont contacté la fièvre puerpérale, c'est-à-dire que la septicémie les tue. Donc c'est tout à fait en accord avec cette septicémie foudroyante provoquée par les coups.
Je retrouvais récemment un document ancien, fin du 19e siècle, qui attribuait ce que Céline avait dit, que Semmelweis s'était blessé au cours d'une autopsie et en était mort. Donc on a perpétué une idée fausse de cette mort jusqu'à ce que on dispose d'informations réelles sur les conditions dans lesquelles le pauvre Ignaz Semmelweis est décédé. Et effectivement, lui-même va mourir d'une septicémie et le diagnostic sera fait dans le même hôpital où lui-même aura lutté contre les septicémies, les fièvres puerpérales. Donc une sorte de clin d'œil de l'histoire un petit peu tragique.
Une fois qu'il est mort, il était enterré à Chelmetz, c'était un cimetière dans une banlieue viennoise, où il a passé facilement 30 ans. Et quand il était décidé de soit supprimer ou réorganiser le cimetière, il fallait bouger. Donc à la demande de sa femme, son corps était rapatrié. Donc c'est un premier voyage à Budapest et au cimetière de Kerepesi, qui est tout près du centre. Il l'a enfin ramené au bercail dans le crypte familial. Un peu plus tard, mais toujours avant le tournant de 1900, donc vers les fins des années 1800, donc on a décidé, dans un élan national, que quand même il fallait lui donner une sépulture plus importante, plus digne, donc on l'a ressorti du caveau. Il y avait chaque fois une autopsie, en fait. Donc, on a refait une autopsie. Donc, on a à nouveau rediscuté les théories de sa mort. Et puis, cette fois-ci, on a enterré dans un magnifique sarcophage en marbre, toujours dans le même cimetière. Mais quelques années plus tard, arrivant en 1900, je ne sais plus pour quelle raison, on a encore redécidé de ressortir, refaire une autopsie, une contrôle dessus. Et on a encore enterré, donc on arrive, je ne sais pas, troisième, quatrième fois. Et finalement, 100 ans plus tard, pratiquement 100 ans plus tard, en 1963, enfin, on a considéré qu'il s'enterrait définitivement dans sa maison natale. Tous ses os ont été coulés dans le plastique. Donc là, c'est fini pour des autopsies et des analyses des os. Et ce bloc de plastique est mis dans le mur de sa maison natale à Tobane, dans ce quartier de Brest, qui est devenu donc un musée de l'histoire de la médecine et de Semmelweis. Et j'espère pour lui qu'il y restera maintenant durablement. Ça, c'était tous ces voyages toujours liés à rechercher la cause de sa mort et d'essayer d'étayer ça.
On a mythologisé sa mort, mais les choses sont bien plus simples que cela. En 1965, à l'occasion du centième anniversaire de sa mort,
Tivada Rutel,
la dépouille de Semmelweis a été exhumée du cimetière de Kerepesi. On a alors proposé à mon père d'examiner ses restes, car mon père était chirurgien, comme tous mes ancêtres. Moi aussi, je suis cardiologue. Je suis l'arrière-arrière-petit-fils de Semmelweis. L'examen a confirmé qu'il avait une fracture à l'avant-bras. Semmelweis s'était en effet cassé le bras à deux reprises. Une fois en tombant de cheval et l'autre fois en glissant dans un bain à Budapest. Ces fractures étaient donc liées à des accidents qui s'étaient produits lorsqu'il était médecin à Saint-Roch et n'avaient rien à voir avec sa mort.
Sie starb durch eine Biämie, aber
Semmelweis est mort d'une pyoémie, d'une infection purulente. Il n'est pas mort battu. On l'a bien sûr contentionné, isolé dans une pièce sombre à cause de son délire, mais cela s'arrête là. Je ne pense pas qu'il y ait eu de violence à proprement parler. Quant aux raisons exactes de sa mort, pour moi, il n'y a aucun secret. On savait qu'il souffrait d'une maladie mentale. Il en avait tous les symptômes. On a longtemps cru qu'il s'agissait de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Pick. Mais on penche plutôt aujourd'hui pour une paralysie générale progressive, qui est le stade ultime de la syphilis. Et il est d'ailleurs intéressant de noter que deux des assistants de Semmelweis, qui travaillaient avec lui à l'hôpital universitaire, Josef Fleischer et Jakob Bruck, sont morts eux aussi de paralysie progressive. C'était une maladie très répandue à l'époque. Tout dans la vie de Semmelweis, dans son existence, son combat, son destin, tout est déjà un roman en soi. Il n'est pas nécessaire de le romantiser davantage.
Childbed fever. They have taught him that it merely comes from the air. They have taught him it is the will of God. And yet, is it the will of God or the blindness of men?
La mort de Semmelweis est un épisode tragique. Et c'est un épisode tragique qui fait de lui quasiment cette figure de héros romantique, en fait. Cet homme enfermé, maltraité, et mourant effectivement de cette maltraitance. La mort de Semmelweis, c'est une page noire de l'histoire de la médecine à plusieurs égards. C'est une page noire, évidemment, de l'histoire de ce qu'on ne peut même pas appeler des soins psychiatriques. Ça, c'est une évidence. Mais c'est aussi une histoire de la mise à l'écart et de la réduction au silence de figures qui, à un moment, dévient d'une norme, dévient d'un respect des hiérarchies. Et dans le cas de Semmelweis, un fonctionnement de la médecine, des hiérarchies, qu'il a contesté tout au long de son existence parce qu'il les voyait sourdes et aveugles aux découvertes qu'il avait faites.
Parce que l'internement psychiatrique, c'est une double incarcération et une double condamnation. Vous isolez physiquement la personne, mais vous l'isolez également intellectuellement et scientifiquement. Parce qu'en disant « ce type est fou, on l'a interné dans un asile », vous faites évidemment peser le doute, pour le moins, sur tout ce qu'il a dit auparavant. Donc vous le tuez deux fois, socialement, intellectuellement, et puis ensuite trois fois physiquement, avec... cette mort, pour le moins curieuse, un homme qui est mort à 47 ans, quand même. Il aurait pu encore soigner beaucoup, beaucoup de gens.
Et Tivadar Hüttl, son arrière-arrière-petit-fils, a fait cette déclaration que j'ai trouvée tout à fait pertinente par rapport à la situation. Il a dit « Autorité et conviction sont souvent plus forts que les faits. » Les faits, c'est Semmelweis. L'autorité, c'est celle que j'ai appelée la nomenclatura médicale. Et la conviction, c'est la conviction, l'assurance du monde médical, comme quoi ils détiennent la vérité, que cette vérité, elle est imperturbable, elle ne peut pas être modifiée, changée. Il y avait les faits, mais face à l'environnement, eh bien, ces faits-là ont été très très longs à être acceptés.
Ce sont les Britanniques qui sont à l'initiative du premier comité international pour la mémoire d'Ignaz Semmelweis. Ce comité charge le sculpteur hongrois Alaros Strobel de réaliser une statue de Semmelweis. Le monument est inauguré en 1906 et trône encore aujourd'hui devant l'entrée de l'hôpital Saint-Roch. Il représente Semmelweis entouré d'une jeune mère et de ses enfants. Il aura donc fallu près de 100 ans pour réhabiliter Semmelweis. Les bonnes nouvelles ne vont pas vite, apparemment.
La situation de la réhabilitation de Semmelweis est aujourd'hui parfaitement accomplie. Semmelweis a retrouvé sa place avec beaucoup de difficultés quand même, parce que 1969, c'est presque 100 ans après sa mort que c'est arrivé grâce à Benedek István qui l'a défendu, qui a dit « je veux réparer tous les torts qu'on a fait contre cet homme ». Donc aujourd'hui, je dirais effectivement, il y a des statues partout devant l'hôpital Saint-Roch, Saint-Roch-Kouchkorhaz. Et ailleurs, je pense que là, pour les Hongrois, il a retrouvé sa place qu'il a méritée, sans problème.
C'est vrai, il y a maintenant des rues Semmelweis un peu partout dans le pays. Il y a une rue Semmelweis à Budapest, là où se trouvait l'ancien hôpital Saint-Roch. Il y a des rues et des hôpitaux qui portent le nom de Semmelweis dans toute la Hongrie. Et il y a bien sûr l'université de Budapest qui a été rebaptisée Université Semmelweis en 1969. Et c'est une fierté pour moi de pouvoir y travailler aujourd'hui.
Oui, certainement, c'est quelqu'un certainement qui est au cœur des Hongrois, qui est un grand, que tous les Hongrois connaissent. J'aime pas tellement le mot héros, mais bon, on peut tout à fait accepter que c'est quelqu'un, son côté exceptionnel, son œuvre, son travail sont parfaitement reconnus.
Tout bien ?
Voilà, ça va, on tient un peu. Ça y est,
elle est passée.
Bon, ça va, elle est déjà rendu mon bassin,
ça passe
bien.
Ça va, c'est mon votre pied. Hop là.
Semmelweis est également honoré à Vienne. Son buste a été érigé en 1967 dans la cour des arcades de l'université de Vienne.
Dana Tulojeki.
La bassine qu'il utilisait pour se laver les mains et quelques-uns de ses instruments sont également conservés au Joséphinum. On a bien sûr aussi célébré le 150e anniversaire de sa mort. L'héritage de Semmelweis est reconnu à Vienne. Il est célébré. Toutefois, on n'aborde plus le fait, par exemple, qu'on n'ait pas vraiment voulu de lui à Vienne, ni qu'en tant que médecin hongrois, il n'était pas vraiment apprécié des médecins viennois. Tout cela, c'est de l'histoire ancienne. On n'en parle plus. Je crois que l'on peut dire qu'à Vienne, Semmelweis restera toujours un Viennois, même si lui-même ne s'est jamais considéré comme Viennois. Ce qui n'empêche pas que pour les Hongrois, Semmelweis restera toujours un Hongrois.
Encore un petit centimètre de long, entre un demi-centimètre et un centimètre de long. Et là, j'ai réussi à mettre votre col
au milieu.
Ah, c'est vrai ? Trop bien.
Et
je pense que je l'ai senti,
c'est ça. La tombe de Semmelweis se trouve dans la cour du musée d'histoire de la médecine de Budapest. Ce n'est pas vraiment une tombe, mais chaque fois que je passe devant, je dis bonjour à mon arrière-arrière-grand-père. Être un descendant de Semmelweis, c'est hériter d'un certain état d'esprit. C'est comme ça. On ne peut rien y changer. Parfois, je me sens un peu écrasé par le poids de cet héritage. J'essaye de bien faire mon travail, mais c'est lourd à porter. Je crois que Semmelweis nous a montré que pour accomplir une chose, il faut lui consacrer toute sa vie. Quand on est convaincu d'une vérité, il faut se battre pour la faire éclater au grand jour.
Elle passe quand même à la fois, une fois que la contraction est...
Là, ça va, ouais. C'est dans le dos où ça reste. Oh.
Les héritiers de Semmelweis, c'est nous tous. C'est finalement les chercheurs qui font la recherche. Par exemple, moi, dans la recherche biomédicale, on applique ces démarches, on applique exactement cette façon de procéder. Il a un legs scientifique et finalement aussi humaniste, car il était préoccupé de son prochain, des malades, et préoccupé par sa Selbstschuld, c'est-à-dire il se sentait lui-même coupable, étant donné qu'il avait introduit ses germes par ses actes médicaux. Et ceci est quand même un exemple très clair pour nous tous et qui doit être retenu pour l'éternité.
C'est un legs effectivement scientifique, parce qu'il a légué une méthodologie, mais c'est aussi un legs humain. Il est possible que Semmelweis, parce qu'il avait en lui une réserve d'humanité, parce qu'il a aussi laissé parler justement cette humanité, il a pu voir, entendre, observer, déduire. Et c'est ce qui est frappant chez lui, c'est la capacité à faire coexister cette empathie et ce ressenti extrêmement fort des situations avec un esprit scientifique d'une rigueur parfaite. C'est sans doute l'une de ses qualités les plus marquantes.
Ça a permis de sauver beaucoup de femmes. Donc pour moi, le legs Semmelweis, c'est important dans la mesure où ben voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les femmes, d'une certaine façon, à un moment où il était normal que les femmes meurent en couche. Ça ne provoquait pas de scandale. Et Semmelweis, c'est quelqu'un pour qui c'était un scandale. Voilà, on ne peut qu'être reconnaissant envers ce médecin qui a pris au sérieux quelque chose qui était extrêmement grave dans la condition féminine de son époque. Et ça, pour le coup, ça me semble important.
Le legs, vachement son humanisme, son respect en particulier des femmes, je ne pourrais pas prétendre qu'il était féministe, mais il était quand même pour la reconnaissance pleine et entière des femmes qui n'avaient pas de droit. C'en était encore au 19e siècle. Donc probablement qu'il était pour une émancipation féminine, ne serait-ce que de les conserver en vie. Et donc son humanisme, sa clairvoyance, son héroïsme en luttant contre tout ce qu'il a eu à subir de vexation et de mépris. Donc il a résisté à tout ça. Et puis, ce qu'on pourrait appeler sa vision, c'est-à-dire quand même il engageait la médecine dans quelque chose qui allait être capital, qui allait être la sepsie. C'est comme ça que je vous le dirais.
Quand je regarde le passé, une tristesse profonde m'envahit. Je ne parviens à la chasser qu'en pensant à l'avenir. À cette époque heureuse, où toutes les maternités du monde ne connaîtront plus aucun cas de contamination. Et si par malheur, je n'étais plus là pour le voir de mes propres yeux, la certitude inébranlable que ce moment viendra suffira à rendre l'heure de ma mort joyeuse.
Ces dernières lignes de l'étiologie, c'est ce qui m'émeut toujours le plus chez lui. Je les trouve magnifiques. Et c'est un exemple pour nous tous.
Oui, comment conclure une histoire pareille? Comment finir cet opéra? C'est difficile.
Semmelweis dies, and then the women come out, the ghosts. Sort of like earlier on, the woman who
Semmelweis meurt à la fin, et les femmes entrent sur scène. Tous ces fantômes, toutes ces femmes mortes surgissent du passé pour emmener Semmelweis. Et elles chantent. C'est comme un chant funèbre dans une cathédrale, un peu comme si elles chantaient pour ses funérailles.
The woman who had been there at the very opening of the opera, she comes out
La femme qui avait ouvert l'opéra monte à son tour sur scène. Elle frappe tout de suite par son allure atemporelle, plus contemporaine, comme si elle représentait les femmes d'aujourd'hui. Celles qui vivent désormais avec l'héritage de Semmelweis, avec cette découverte qui a sauvé tant de vies. C'est elle qui tient la bougie, parce que l'héritage doit se perpétuer. La flamme doit continuer de brûler. Elle descend de scène, marche jusque dans la rue, la bougie à la main, dans les ruelles de Budapest. Elle s'en va, tout simplement.
Docteur Semmelweis, avec Tivada Ruttel, Ray Lustig, Miklos de Samarogi, Ted Obenschein, Yves Buin, David Labreur, Anna Durnova, Johan Chapoutot, Clara Royer, Jean-Marc Cavaillon, Nathalie Sage-Prancher et Andreas Bicvalvi. Voix, Laurent Manzoni, Maxime Legal, Miglen Mirtchev et Andrea Schiffer. Texte, le livre d'heures de Rainer Maria Rilke. Film, Semmelweis de Jim Berry. Opéra, Semmelweis de Ray Lustig. Remerciements, Cécile Cassotti. Traduction, Lou Elio. Documentation, Maria Contreras, Anne-Lise Signoret et Antoine Vuillaus. Prise de son, Yann Frécy, Thibaut Nassimben, Frédéric Cairou et Valérie Lavalard. Mixage, Claude Nior. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Anne Pérez-Franchini.